Au vu de l'état actuel du monde, certains d'entre vous qui écoutez l'émission pensent peut-être que les choses seraient bien différentes, et très sûrement bien mieux, si certains événements avaient été un poil changés, sans savoir qu'ils pratiquent alors un exercice de pensée historique assez intéressant, l'Uchronie. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Histoire en Onde, portée aujourd'hui sur ce dit concept d'Uchronie, sur ses tenants et ses aboutissants. Je suis Thiao Arnet et je me retrouve comme l'habitué avec Thomas Burkhardt. Bonjour Thomas.
Bonjour Thiao.
Alors, qu'est-ce que l'Uchronie ?
Eh bien, je ne vais pas trop me mouiller dans un premier temps en vous disant que c'est un mot. Oui, mais c'est un mot grec qui nous vient avant tout du grec. Et donc, il est composé donc, de « ou » et de « chronos », qui veut littéralement dire « le temps n'existe pas ». C'est également un mot qui nous vient de Charles Renouvier, un philosophe français, libre penseur du 19e siècle, dans son ouvrage, d'ailleurs du même titre, hein, « Uchronie ». Et donc, par ce mot, on définit une réécriture de l'histoire fondée sur l'hypothèse que certains événements auraient été décidés autrement. De la sorte, l'Uchronie se distingue de l'utopie par un ancrage dans le réel plus plausible, dans un cadre géographique et temporel palpable, à la différence de l'utopie ou de la dystopie, qui ne respecte pas toujours ces codes-là. Bon, tout simplement, l'Uchronie, c'est se poser surtout la question du « et si ». Par exemple, et si Charles VI n'avait pas connu la folie, et si Alexandre le Grand, n'était pas mort aussi jeune.
Et c'est ça. Et l'Uchronie, elle est répartie en typologie, en trois types pour être précis. On a tout d'abord donc l'Uchronie fictionnelle ou l'Uchronie littéraire, celle qui est très sûrement la plus connue de nos auditeurs, qui comprend tous les romans, films, bandes dessinées, se basant sur un petit changement, un petit événement divergent, afin de réécrire une histoire. Par exemple, il y a une série de BD qui s'appelle Jour J, qui est assez récente. Dont le premier volume, par exemple, font à chaque fois une uchronie. Le premier volume, par exemple, parle d'une nouvelle France, donc la Louisiane et tout ça, qui serait devenu un État français indépendant, un royaume sous la dynastie des Bourbons, sous notamment un certain roi qui s'appellerait Philippe VII au XVIIIe siècle.
C'est pas le seul cas aussi. On retrouve, par exemple, The Man in the High Castle, le maître du haut château, en bon franco-français. Mais je crois que d'ailleurs que c'est une série qui est tirée d'un bouquin à l'origine. Et donc, tout simplement, c'est une uchronie qui se passerait et si l'Allemagne nazie avait vaincu avec le Japon impérial lors de la Seconde Guerre mondiale.
D'ailleurs, cette Seconde Guerre mondiale, on va beaucoup en parler parce que dans cette émission, il va y avoir beaucoup, beaucoup de fois la Seconde Guerre mondiale qui revient.
On vous expliquera plus tard pourquoi. Mais...
Voilà, mais c'est un petit peu le go-to, comme on dit.
En tout cas, de notre époque à nous.
Ouais, c'est ça, des amateurs d'histoire de notre époque à nous. Donc, on va tenter de s'en détacher un peu, mais on va être obligé d'y revenir.
Autre genre de l'Uchronie, c'est surtout l'Uchronie analytique, ou aussi appelée historique. Hein, celle qui, en tout cas, en tant qu'historien, n'est-ce pas Thiao, celle qui nous intéresse, nous deux, en tout cas. Donc, c'est surtout des essais, des travaux d'historiens qui réfléchissent donc aux bifurcations, aux tournants qu'aurait pu prendre l'histoire ou qu'a pris l'histoire. Hein. Et donc, pour mieux comprendre les enchaînements réels, donc les événements qui mènent à un certain point.
C'est ça. Par exemple, se renseigner sur une de mes uchronies favorites, qui est si l'Empire byzantin avait été resté debout, ou si Andreas Palaiologos, neveu du dernier empereur byzantin Constantin XI, avait réussi son projet de reprendre Constantinople, grâce notamment aux forces de Charles VIII de France et des rois catholiques d'Espagne, Ferdinand et Isabelle. Mais du coup, pour ce qui en est de si Constantinople avait survécu, on se concentre pas sur 1453, la chute de la ville, on se concentre plus sur les événements avant.
Ça ferait aucun sens, Constantinople qui survit toute seule.
En 1453, il n'y a plus rien pour survivre à part le despotat de Morée. Du coup, on se concentre peut-être sur la guerre civile des années 1340 sous Andronique III, on se concentre sur la quatrième croisade en 1204 qui pille Constantinople. On se concentre sur la dynastie des Comnène ou quoi. Voilà.
Mais surtout, aussi, troisième genre, moi ce serait plutôt l'Uchronie ludique dans ce cas-là. Donc tout ce qui est jeux vidéo, jeux de rôle, tout ce qui est wargame aussi.
C'est ça, parce qu'on a, par exemple, un très bon exemple, Wolfenstein New Order, où l'Allemagne aurait découvert une technologie qui lui aurait permis de gagner la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait.
Et donc, on a un excellent exemple de ce qu'aurait pu être le monde à ce moment-là, la chanson utilisée dans le...
Neue Berlin, je crois.
Ouais, c'est ça, Es geht ein Haus in Neue Berlin, qui reprend du coup une des musiques folkloriques américaines les plus proéminentes, qui est House of the Rising Sun, qui est connu pour sa reprise par The Animals en 1964, mais qui existe depuis bien avant. Le premier enregistrement qu'on en a, c'est Thomas Clarence Ashley en 1937, pour être précis.
D'accord.
Voilà.
Et aussi, autre exemple, Hearts of Iron. Bon, pour le coup, Hearts of Iron, c'est aussi un jeu vidéo qui se passe sur la Seconde Guerre mondiale. Mais lui, c'est plus un simulateur de guerre. Donc, vous pouvez très bien jouer Hearts of Iron en respectant l'histoire telle qu'elle a été. Mais vous pouvez aussi changer et donc prendre d'autres chemins. Je sais pas, par exemple, faire des États-Unis communistes en 1938, faire revenir la famille impériale en Russie, justement, en 1938 aussi. Bref, il y a plein de chemins comme ça. Et l'exemple parfait, c'est dernièrement, il y a un DLC qui est sorti sur le fait, sur le Moyen-Orient, donc avec l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan. Donc vous pouvez jouer ces pays avec, justement, en Iran, faire revenir, je sais pas, l'Empire perse, par exemple. Et donc s'étendre sur les pays voisins.
Et d'ailleurs, l'Iran actuellement, c'est une grande zone où on peut théoriser sur ce qui peut se passer dans plein de cas, avec les mouvements sociaux qu'il y a, notamment certains qui tentent de rappeler le fils du dernier Shah, donc le fils de Mohamed Reza Pahlavi, qui prendrait le trône du coup sous le nom de Reza II, mais et qui est soutenu par les États-Unis. On peut aussi imaginer l'Iran qui devient une république au cours de l'année 2025, ou alors qui
Imaginer que la révolution iranienne n'a jamais eu lieu.
Pas passé, c'est ça.
Ou se serait passé différemment.
C'est ça. Ou l'ayatollah Khomeini n'aurait pas pris le pouvoir, etc. C'est vraiment, on est sur une zone où, pour le coup, si on veut faire des uchronies contemporaines, c'est par là où on peut se tourner le plus.
C'est ça. Et l'uchronie, c'est aussi plusieurs fonctions. Hein, avec tout d'abord une critique du réel. Parce que oui, c'est ça l'uchronie en fait, c'est savoir critiquer son réel. Bon, ça ramène aussi tout ce qui est...
C'est savoir critiquer ce qui a été fait. Est-ce que c'était les meilleures décisions possibles qui ont été prises à ce moment-là ?
Ou est-ce qu'on aurait pu faire justement peut-être mieux, entre guillemets, c'est réécrire l'histoire.
C'est le but.
C'est le but
de l'uchronie.
C'est réécrire l'histoire.
Mais c'est ça, c'est se demander, tiens, et si Herbert Hoover n'était pas président des États-Unis en 1929, au début de la crise financière, est-ce que elle se serait passée pareil ? Est-ce que si Franklin Delano Roosevelt avait été président 4 ans plus tôt, les États-Unis se seraient entérinés dans la crise aussi violemment ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il aurait eu autant de succès ? On ne peut pas le savoir. Et c'est justement ça, c'est tout un travail de théorisation.
Et donc, c'est aussi surtout un exercice de pensée. Hein, ça permet d'explorer des scénarios alternatifs pour mieux saisir la complexité de l'histoire. Parce que l'histoire, c'est ça, c'est juste un enchaînement d'événements qui donne des conséquences assez hasardeuses. Hein.
C'est ça, en fait, l'uchronie, c'est prouver l'événementialité du non-événement.
Voilà.
C'est par exemple le partage de l'empire
sous Théodose.
À la mort de Théodose Ier en 396 entre l'empire d'Orient qui est plus tard connu comme l'empire byzantin et l'empire d'Occident qui lui s'effondre moins de 100 ans plus tard. Et donc entre les fils de Théodose, Arcadius et Honorius, à ce moment-là, c'est vu comme un non-événement.
C'est tout à fait normal.
C'est un des nombreux partages que l'Empire a connus. On se dit, bon, il va se reformer, et non. Et du coup, là, une uchronie serait de voir qu'est-ce que ce non-événement pour les contemporains aurait pu être si l'Empire s'était reformé, encore une fois, à un non-événement, et ce que ça aurait pu apporter.
Peut-être un petit peu plus trivial, si je puis me permettre. Peut-être Charlemagne qui se marie avec Irène
exactement.
De Byzance.
Exactement.
Qui là aussi est un non-événement des plus normaux pour l'époque, même aujourd'hui en soi. Mais qu'est-ce qu'aurait été un empire gréco-franc ?
C'est ça. C'est assez intéressant à voir. Et notamment, on peut aussi voir pas seulement au niveau de l'événementiel, du non-événement, mais on peut aussi voir de manière, je sais pas, économique, sociale, ce que ça aurait donné. Par exemple, est-ce qu'il y aurait quand même eu des mouvements de nationalisme grec, si c'était pas l'Empire ottoman qui était en Grèce au XIXe siècle, mais l'Empire byzantin. On peut se poser ces questions-là.
Mais c'est aussi, et avant tout, j'ai envie de dire, un divertissement. l'Uchronie, c'est fait pour se divertir. Tout simplement, aller sur YouTube, taper Uchronie. Bon, vous tomberez sûrement sur la chaîne d'Alteris, qui est la référence française, en tout cas.
Incroyable. Et duquel on s'est un peu inspiré.
Même beaucoup inspiré, genre.
Pour cette émission. Mais on peut aussi. En fait, l'Uchronie, ça apporte un ressort scénaristique assez dingue. Mettons que vous regardez un film sur la Seconde Guerre mondiale. Prenons au hasard
Inglourious
Basterds.
Voilà.
Vous regardez un film où vous dites OK, c'est une fiction historique, simplement quelque chose qui se passe dans un cadre historique. Mm-hmm. Et puis, spoiler alert, Hitler meurt.
Ça la fout un peu mal. Enfin, dans le contexte historique, je veux dire, attention. Hein.
Voilà, c'est ça. On n'est plus du tout dans le contexte historique. Et pour le coup, Tarantino s'étend pas beaucoup plus sur ce qui se passe après la mort de Hitler. Voilà. Mais ça peut mener à penser.
Un Hitler qui meurt en 44, ça rabat totalement les cartes de l'après-guerre. Hein,
exactement. Exactement.
Mais c'est aussi, du coup, comment dire, c'est un divertissement, mais aussi un outil historique, d'historien, comme on a pu le voir. Mmh. Mais il faut se dire que les historiens s'en méfient quand même pas mal.
Oui.
Parce que c'est surtout un outil teinté d'idéologie.
D'idéologie, c'est ça. Parce que, mettons, souvent, ceux qui vont faire des uchronies sur « Tiens, qu'est-ce qui se serait passé si la révolution de juillet en 1848 n'était pas arrivée et que les Orléans étaient restés au pouvoir ?»« Tiens, qu'est-ce qui se serait passé si Henri V, petit-fils de Charles X, avait accepté de monter sur le trône de France en 1872 ?» ou 73, quand l'Assemblée lui proposait, et ben souvent ces idées-là
sont des monarchistes,
sont portées, c'est ça, par des groupes monarchistes plus ou moins modérés.
Oui, tout comme pour revenir à la Seconde Guerre mondiale, même si je préfère penser que la plupart imaginent de nouvelles conséquences pour cette guerre comme étant du divertissement, on sait très bien qu'une partie, peut-être pas forcément assez large, mais plutôt minoritaire, d'entre eux préfèrent imaginer un monde où le Troisième Reich règne en maître. Et...
c'est ça, c'est ça. C'est ça le problème de l'Uchronie.
Tout à fait.
Et il est bon de noter que cette Uchronie, comme avec par exemple Wolfenstein New Order, mm-hmm. Elle flirte souvent avec la dystopie.
La dystopie, même l'utopie, hein.
Oui.
Et surtout la science-fiction.
Voire même la science-fiction. Voilà. J'ai une super vidéo de Alteris, aussi d'un autre youtubeur américain, sur et si Rome s'était industrialisé. Ce qui mène suite à des idées de steampunk dans l'Empire romain, assez dingue.
C'est ça, complètement folle, qui sont assez intéressantes d'ailleurs, si je peux me permettre. Oui, d'ailleurs, la science-fiction, comme on vient de le dire, c'est surtout aussi quelque chose qu'on peut, je pense, classer dans l'Uchronie. Bon, peut-être pas des choses assez triviales comme Star Wars.
Mais ça dépend, c'est vrai.
Si on prend Asimov, pour moi, c'est un monde assez utopique, Asimov. C'est la fondation. Je sais pas si tu connais.
Pas trop, je suis pas très calé sur Asimov.
Mais Asimov, oui, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à lire. C'est vraiment l'humanité poussée à un niveau technologique assez suprême qui est assez intéressant.
On peut voir aussi ça dans Dune, mais c'est une uchronie assez différente parce que on se pose la question de s'il se passe ça dans le futur.
Oui.
On est plus sur de la théorisation que sur de l'uchronie réelle. Mais oui.
Et en parlant de divertissement toujours, on peut aussi faire de l'Uchronie dans des univers qui ne sont pas le nôtre. Hein,
oui,
si on prend
ça.
Game of Thrones, je suis tombé assez récemment dans des Uchronies sur Game of Thrones, parce que je suis un fan assez quand même intéressé par tout ça.
Oui, c'est
ça. Je suis tombé sur des Uchronies assez quand même pas mal foutues de cet univers-là.
Oui, il y a vraiment des bonnes choses. Pareil, je suis tombé dans l'univers de Tolkien aussi.
Oui.
Il y en a beaucoup, mais c'est parce que c'est des univers qui... justement puisent leurs sources dans le nôtre. Game of Thrones, c'est globalement
c'est la guerre des roses.
C'est ça, si vous lisez un bouquin historique sur la guerre des roses, c'est vraiment ça.
Puis Tolkien s'enrichit beaucoup du folklore
nordique et même britannique.
Et même britannique, tout à fait.
Ainsi, donc l'Uchronie est un exercice de pensée historique intéressant, mais aussi divertissant, notamment dans la culture populaire, comme on a pu le dire. Il ne faut cependant pas la confondre avec la fiction historique, qui n'est pas forcément une Uchronie. Par exemple, Assassin's Creed est plus une fiction historique. On va prendre un cadre historique, on met ce qu'on veut dedans, et puis...
Et si je veux me rappeler, la fiction historique se cale plutôt sur les personnages que sur les événements.
Oui, c'est ça.
C'est rentré dans le personnage.
C'est une toile de fond, en fait, les événements à ce moment-là. Il est bon de noter donc que cet exercice est à prendre avec des pincettes, comme on l'a dit. Mm-hmm. C'est teint d'idéologie, c'est teint de plein de choses.
Après, si je puis dire, il ne faut pas non plus voir de l'idéologie partout non plus. Mais...
Non, c'est sûr. Mais il faut quand même prendre tout ça avec des pincettes.
Voilà,
mais
toujours.
Comme quand on travaille une source historique, comme
toujours,
quand on travaille un peu tout, en fait.
Le moindre mot est un sujet politique.
C'est ça. Mais voici donc. Voici donc qui conclut cette émission. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour une dernière émission pour cette année scolaire.
Eh oui, malheureusement.
Eh oui. Portée de nouveau sur les morts stupides dans l'histoire, parce qu'on aime bien.
Finir sur une touche joyeuse.
C'est ça, exactement.
Et un peu mordide, faut quand même se le dire.
C'est ça. Et surtout, n'oubliez pas, l'histoire, c'est vieux, c'est fin, ça se mange sans fin.